soir le club, Maxime Binet.
Bonsoir le club, c'est un plaisir de vous accueillir dans votre émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses au sommaire du club. Qu'est-ce qui se passe entre les négociateurs de l'Arizona? L'ambiance est mauvaise, nous dit-on, mais un accord semble être intervenu sur le volet fiscalité, sur une taxe sur les plus-values. Et nous reviendrons sur l'édito du Morgan qui se demande s'il ne faut pas mettre sur pause la mission du formateur. Nous nous poserons la question d'entrée de jeu dans cette émission. C'est la punchline de la journée, cela a assez duré. Le PS rejette le blocage en région bruxelloise, l'entêtement de David Lester et Delco Vandenbrand mènent à une impasse. Que cherche à faire le PS en passant par le Parlement? Nous en discuterons également. Enfin, la Belgique doit-elle aller vers un tax shift ou un tax cut? Nos confrères flamands réussissent à mettre la main sur la super note économique de Bart De Wever. Nous vous l'expliquerons dans le détail en fin d'émission. Et bienvenue sur N24 et sur N Radio. Plus jamais vous ne verrez la politique comme avant. C'est la promesse de cette émission. Et pour commenter cette actualité, nous sommes avec nos trois chroniqueurs de ce soir. Bonsoir Catherine Ernens.
Bonsoir.
Vous êtes un journaliste politique pour le magazine Moustique. Moustique qui fait sa une sur le destin tragique de l'acier wallon. Bonsoir Nicolas Dedecker.
Bonsoir Maxime.
Vous êtes journaliste également spécialisé en politique, mais pour le vif. Le vif qui est revenu sur l'investiture de Donald Trump, l'extrême droite à la Maison Blanche. Merci d'être là. Et enfin, bonsoir Dorian Demius.
Bonsoir Maxime.
Vous êtes le rédacteur en chef de La Libre Belgique, La Libre qui a eu pas mal d'infos sur l'Arizona concernant le volet fiscalité. C'est apparu sur votre site internet. On va en parler dans quelques instants. Place à l'actualité politique et aux éditos. Faut-il appuyer sur le bouton pause pour la mission du formateur Bart De Wever? C'est la question que se pose le journal flamand de Morgan en édito. C'est une question gênante, voire quelque peu inquiétante, mais quelqu'un devra bien finir par oser la poser. Écrit de Morgan, cette formation qui nous semblait à la fois logique et nécessaire semble avoir atteint une phase d'acharnement thérapeutique. Ne serait-il pas préférable, au moins temporairement, d'appuyer sur la touche pause, conclut de Morgan. Dorian Demius, débutons avec vous. Êtes-vous d'accord avec cet édito, nos confrères flamands?
Je ne suis pas d'accord, mais cela dit, il a eu gain de cause, car aujourd'hui, après la fuite sur notre site internet, notamment d'informations venant de la nouvelle note socio-économique, il a été décidé de ne plus aborder le socio-économique pendant 2 jours. Donc il y a une forme de pause, parce que tout le monde sait que c'est évidemment ces matières-là qui posent problème aujourd'hui, donc on va attaquer d'autres sujets qu'on appelle les fameux Knelpunten, notamment l'immigration, l'énergie et autres, avant de revenir sur le socio-économique et de peut-être garder ça pour la toute fin, pour que les fuites ne posent plus de problème en tant que telles.
Donc on garde le plus dur pour la fin, ces fameux Knelpunten, notamment sur la migration, la politique migratoire. Je rappelle cette phrase de Theo Franken qui souhaite la politique migratoire la plus dure qui ait connue l'histoire de Belgique. C'est aussi des éléments importants et source de tension entre les partenaires. Quelle est l'ambiance entre les négociateurs de l'Arizona dans le menu?
Il y a un peu de plein d'informations qui sortent à gauche, à droite, disant que c'est un peu difficile, qu'il y a une crise, qu'un tel a failli claquer la porte. Mais en réalité, ce qui nous revient quand même, c'est que l'ambiance autour de la table est plutôt constructive. Maintenant, il y a évidemment des moments de tension, notamment suite aux révélations de ce mercredi matin. Mais je pense qu'ils sont tous convaincus qu'il faut aller jusqu'au bout, quitte à revoir l'ambition générale. On le voit notamment sur les chiffres qui sont sortis aujourd'hui sur la fiscalité. Les épaules les plus larges pèseront moins que prévu au départ et ce genre de choses, mais pèseront quand même. Donc, c'est plutôt une révision des ambitions qui est en train de se passer.
Et on parlera de cette note sociale économique de Bart De Wever en troisième partie d'émission, notamment concernant le volet sur les plus-values. On voit qu'un accord semble être intervenu. On verra si cet accord tient toujours. Catherine Ernens, ils n'ont pas droit à l'erreur. Pourtant, ils remettent à plus tard l'élément le plus difficile de ces négociations qui durent depuis 8 mois. Vous pensez que ça va passer ou pas? Ou alors faut-il appuyer sur le bouton pause?
Appuyer sur le bouton pause, ça va vraiment à l'encontre de l'opinion publique francophone qui se demande vraiment pourquoi ça prend autant de temps. on entend surtout des cris un peu énervés, où on se dit on a besoin d'un gouvernement économiquement solide et sécurisant pour le pays. À l'heure où Trump s'installe et va installer des mesures qui vont nous toucher l'Europe en général, mais la Belgique aussi, et on est sans gouvernement en train de continuer à tergiverser, et on se demande pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. On sait que si De Morgan s'interroge là-dessus, c'est parce que le poids de la gauche de Voreut est balayé de manière assez singulière, alors que Conor Rousseau a essayé d'amener 200 amendements, souvenez-vous, oui, en disant vous allez quand même bien en prendre quelques-uns, et ce n'est pas le cas.
Et on n'a pas vraiment cette notion côté francophone. La partie flamande, la presse flamande, nos confrères du nord du pays sont beaucoup plus dubitatifs par rapport à l'atterrissage de cet Arizona, date d'atterrissage prévue pour le 31 janvier prochain. Nicolas de Decker, Voreut, c'est eux, les socialistes flamands, qui freinent des quatre fers ?
Mais en fait, il est assez évident et public, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas d'accord avec les orientations générales sur le plan socio-économique. Et il est aussi connu que De Morgan n'est pas tout à fait le journal le plus proche de l'establishment nationaliste flamand. Et donc, il n'est pas anormal que ce morceau de bravoure éditoriale soit sorti de la plume de Bartekout et soit publié dans De Morgan. Cela dit, et donc pour revenir avant tout sur cet édito en question, bah, Maxime, ça fait quand même quelques semaines, voire mois, que entre nous, quand on doit commenter la situation, il nous arrive quand même poliment et avec respect de considérer que malgré tout, il faudrait quand même se demander si Bardo Weaver est vraiment un si bon formateur, s'il est de si bonne volonté que ça, et s'il est de bonne qualité que ça. En Flandre, ça ne se dit pas beaucoup, mais parce que Bardo Weaver, c'est la personnalité qui est médiatiquement la plus incontournable.
C'est celui qui dicte
le récit médiatique. D'ailleurs, c'est tellement lui qui le dicte que il a perdu les élections, mais il a dit j'ai gagné les élections. Donc tout le monde dit depuis lors qu'il est le vainqueur de ces élections. Ça, j'ai toujours trouvé ça formidable en performativité, hein, le fait que vous disiez quelque chose et que ça dit un vrai. Mais ici, c'est presque un fait médiatique et politique important dans le consensus flamand, hein, qui consiste à dire toujours du bien ou ne pas dire trop de mal de Bardo Weaver. Donc ça c'est je pense que c'est une pièce au débat. Alors de dire maintenant je souhaite que, ça c'est aussi le rôle d'un éditorialiste, il sort pas de son rôle, je souhaite qu'on fasse une pause, c'est en effet parce qu'il considère que c'est sur le fond le programme est trop à droite. On peut considérer ça d'un point de vue de gauche aussi.
Mais c'est intéressant ce que vous dites qu'il y a quand même une volonté de ne pas s'en prendre à Bardo Weaver quelque part, qu'il est intouchable. Justement, dans Demius, il est intouchable, le formateur, ou alors on peut le critiquer?
Mais il est intouchable dans le sens où autour de la table, personne ne remet en cause le fait qu'il soit le futur Premier ministre. Or, c'est le futur Premier ministre, c'est le formateur qui arrivera chez le roi avec une solution. Donc, quelque part, tant qu'il est formateur, il garde cet aspect-là. S'il ne devient plus Premier ministre, à mon avis, on a un problème avec la NVA autour de la table, parce qu'il y a beaucoup de choses que la NVA laisse passer maintenant, mais qu'ils ne laisseront pas passer s'ils se retrouvent autour de la table en tant que parti et non pas en tant que le parti qui essaye de mener les choses. Deuxième point qui me semble aussi important, c'est de rappeler que j'ai perdu le fil de mes idées maintenant.
Mais c'est l'âge, hein, Dorian, on en est tous là.
Les critiques francophones. On a toujours eu, excusez-moi, on a toujours eu depuis le début des francophones plus optimistes que les flamands. On aura un accord avant la fin août, aura un accord juste après les élections communales. Alors que si on écoute les flamands, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, j'avais écrit fin août qu'il y aurait un accord sous le sapin. Tout le monde s'est moqué de moi quasiment en disant mais jamais. Il suffisait d'écouter les flamands, qui eux parlaient déjà de Pâques au moment où l'encre commençait à sécher. Donc il y a un côté, les flamands voient les difficultés de façon beaucoup plus claire que les francophones qui disent oh, mais finalement il n'y a pas le choix, on a gagné donc on doit y aller. C'est assez étonnant de voir, c'est peut-être dû à la victoire un peu écrasante, inattendue aussi, du MR et des engagés ensemble.
C'est alimenté aussi par la présidente de parti francophone qui négocie, Catherine Hernens.
Et c'est vrai que le terme Arizona ne fait pas le consensus en Flandre depuis le départ, contrairement à nous pour qui c'est une notion acquise, et donc on aura un gouvernement dit Arizona. Et alors, ce qui est quand même un peu singulier, parce qu'on revient avec De Weaver qui n'est critiqué par personne, mais à un moment donné, ça dure depuis tellement longtemps, on se demande s'il n'y a pas qu'un seul consensus dans cette formation, c'est Bardo Weaver, et que le reste, ben, on n'arrive pas à faire un programme, quoi. Et personne, et c'est quand même la première fois qu'on a ça, personne ne remet en cause le formateur en se disant, avant on égrenait les personnalités en se disant, ben c'est quelqu'un qui va trouver la bonne formule, on va remplacer. Ici, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on veut Bardoever comme Premier ministre.
Yep.
Et si ça continue, si le 31 janvier, on n'a toujours pas, il va quand même falloir se poser la question de voir si on continue à mettre en piste un formateur qui n'y arrive pas. Et fut-il Bardoever ?
Nicolas de Decker, il n'y a pas un syndrome Yves Le Terme chez Bardoever ?
Ça dépend comment vous définissez.
C'est-à-dire qu'on a du mal à aller avancer dans cette formation, que le formateur doit se faire aider.
Peut-être, mais... Et Catherine l'a dit, quand c'était Yves Le Terme, toutes les semaines, il y avait un nouveau type qui allait pour aider Yves Le Terme à faire son gouvernement. Il n'y arrivait pas toujours, et puis c'était brinque-ballant. Mais c'est vraiment, ça c'est une différence qui tient à la stature médiatique et politique de Bardoever, qui est une personnalité infiniment respectée. Et donc si, ce qui n'était pas le cas d'Yves Le Terme, et si le 31 janvier, en effet, il doit arriver bredouille au palais, et que on ouvre une nouvelle phase... Mais qui ne serait alors plus la même, qui ne serait plus.
Ça serait une formation alors.
Mais ce serait de sa propre volonté, quoi. Ça voudrait dire que ce ne sont même pas les faits qui s'imposeraient à lui, ce serait une fois de plus lui qui dirait, bah, puisque c'est comme ça, c'est fini maintenant, vous voyez bien, rien ne va. Et donc ce serait lui encore qui définirait la réalité des
donc,
faits.
Donc on nous dit en coulisses
c'est
que.
La grande
les
différence
prochains
avec
jours,
le terme, hein.
Tout à fait. On nous dit en coulisses que, eh bien, les prochains jours pour l'Arizona seront déterminants, peut-être jusqu'à la semaine prochaine. On voit que le volet fiscalité a été mis à la fin de l'agenda pour la semaine prochaine, Dorian Demus. Vous pensez que ces négociateurs, vous pensez que Bardoever a droit à l'échec ou pas?
Je pense qu'autour de la table, ils sont convaincus, maintenant il faut y aller. Ils peuvent pas retourner au palais en disant, finalement, la résidence ça va pas, ou finalement, le Bardoever ça n'ira pas. Ils se disent qu'il faut y arriver, parce qu'il y a une attente, il y a une pression, et que finalement, tout est sur la table maintenant. Donc s'il y a des choses tellement énorme, insurmontable, je pense qu'on aurait déjà eu un gros clash. J'ai l'impression que l'ambiance autour de la table n'est pas du tout la même qu'en septembre ou qu'en novembre, au moment où il y avait des
crispations. Il y a une volonté d'atterrir pour le 31 janvier, voilà. Peut-être une petite prolongation, on ne sait jamais. Catherine Hernens ?
Juste quand même, la technique est un peu filou quand même, hein, parce que Bardoever a avancé au départ en disant pas de communautaire, rien du tout, que de l'économique. Ah, le communautaire revient in fine. Au moment où on doit absolument aboutir, on va quand même mettre un petit peu du communautaire, on va quand même faire une vraie grosse réforme fiscale, et donc tout ce qui a été négocié amoindri pour y arriver, à la fin, alors qu'on doit absolument aboutir, on remet tout dans la charrette et on y va.
Justement, il n'y a pas
je trouve ça un peu injuste. Hein,
si dans
je
minutes,
je trouve ça un tout petit peu injuste parce qu'en fait, si on écoute bien les Flamands et notamment ceux de l'NVA, depuis le départ, ils disent il y aura du communautaire. On ne va pas dans un gouvernement, il n'y a pas de communautaire. Il y aura une réforme fiscale. Donc, ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est finalement que chacun doit repartir avec son trophée et la NVA ne se voit pas retourner vers ses militants en disant finalement il n'y aura rien. Donc, je pense que les francophones, donc ça veut dire MR et engagés, ont laissé passer un peu l'idée qu'il n'y aurait pas de communautaire du tout. Mais du côté flamand, ça n'a jamais été.
Pour reprendre une expression que j'avais élégamment conceptualisé dans le vif de cette semaine, pas celui de demain. C'est la NVA travaille à faire du communautaire sans drapeau, c'est-à-dire que il travaille à dans chaque note sur chaque thématique venir avec des revendications qui sont pour les francophones ou qui pourraient être pour les francophones d'apparence universaliste, on va le dire comme ça, mais qui en réalité concerne plutôt spécifiquement ou avantage plutôt spécifiquement d'accord. Une région plutôt qu'une autre.
Et vous pensez qu'ils vont atterrir 31 janvier ou pas, Nicolas Descartes?
Je ne sais pas, Maxime, arrête un petit peu. Demandez à Dorian et
d'accord,
Catherine,
ça va. Mais on le verra certainement prochainement. Et ce qui fait aussi grincer des dents, c'est qu'il n'y a pas de négociateur bruxellois. Et c'est justement la transition avec notre punchline.
AB.
Ce matin, l'invité du Café sans fil sur AN Radio et sur LN24 était Martin Cazier, le socialiste réputé proche d'Ahmed Laouedj, a levé quelque peu le voile sur la stratégie du PS à Bruxelles pour trouver un gouvernement. Écoutez, Martin Cazier, s'il vous plaît, donnez-nous une deadline pour un gouvernement bruxellois. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Ou alors c'est le marasme et on ne sait pas quand on aura ce gouvernement.
Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, Monsieur Binet, c'est que pour le Parti Socialiste, on ne peut plus attendre. Donc, si je pouvais vous donner une deadline, je vous dirais aujourd'hui. C'est insupportable. Mais malheureusement, les formateurs, ce ne sont pas les membres du Parti Socialiste, c'est David Lester et Elke Van Den Braat. Nous faisons un appel aujourd'hui pour leur dire que l'entêtement à vouloir mettre la NVA autour de la table et qui ne réunit pas une majorité est une voie sans issue. Ils doivent sortir de là.
Voilà, Martin Cazier disait aussi dans cette interview que le Parti Socialiste souhaitait passer par le Parlement pour faire passer des tests importants, notamment concernant les loyers dans la région et pourquoi pas des textes en lien avec le cadre budgétaire. Dorian Demius, quelle est la stratégie du Parti Socialiste en disant, au bout de 6 mois, même plus maintenant, eh bien, l'entêtement d'Elke Van Den Brandt et de David Lester mène à une impasse?
Bon, quand le Parti Socialiste bruxellois parle d'entêtement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, si vous me permettez
l'expression. Ah d'accord,
c'est dur. Parce qu'il est aussi dans une côté... c'est la première fois qu'un parti dans une majorité, dans un rôle linguistique, c'est-à-dire francophone, dit non à la formation, la majorité en face. C'est problématique. Maintenant, il y a une réalité derrière tout ça, c'est que Elke Van Den Brandt, qui, avec un puzzle très compliqué à faire, est finalement parvenu au bout de mois à mettre quelques partis flamands ensemble pour avoir une majorité, ne se voit plus retourner en arrière, ne voit pas d'autres solutions. Et donc, quelque part, elle se protège en disant ben, « Moi, j'ai ma majorité, mais les francophones n'ont plus qu'à l'accepter », alors qu'on savait avant que les socialistes avaient un problème, j'ai bien un problème, il n'y avait pas de veto en tant que tel, avec la NVA autour de la table. Donc il y a une forme de manipulation un petit peu de chacun, d'entêtement généralisé, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc c'est particulièrement compliqué et c'est surtout totalement intenable, parce que l'espoir du Parti Socialiste, c'est que l'Arizona soit enfin formé et que, comme ils disent, Georges Boucher ait du temps libre pour venir autour de la table et pour faire avancer les choses, parce qu'il joue toujours sur le côté Georges Boucher.
C'est Georges Boucher, le formateur
à Bruxelles.
Et le
tuteur de David Lester, et donc il faut attendre qu'il soit là pour que les choses bougent. C'est un peu l'image qu'il donne. Mais si ça ne bouge pas, parce que du côté flamand, ils n'ont jamais été aussi cristallisés, soudés, convaincus que c'est ensemble qu'ils doivent y aller. Et donc, savoir que des socialistes francophones veulent faire changer ça, ben, du côté flamand, ça passe pas comme ça.
Nicolas Dedecker, le PS se fout de la charité, l'hôpital qui se fout de la charité.
Il y a quand même un élément important qui est la volonté du peuple à Bruxelles, et c'est souvent effacé par l'impression généralisée, mais qu'on a eu nous au soir du 9 juin. Mais à Bruxelles, le signal de l'électeur, il est plutôt à gauche qu'à droite. Les engagés et le MR ensemble, ils font, je crois, 15-20% de moins à Bruxelles qu'ils le font en Wallonie.
Ce que vous dites, c'est que le Parlement bruxellois penche davantage à gauche.
Et c'est pour ça d'ailleurs que le PS, ici maintenant, habilement, mais aussi de manière respectueuse de la sociologie bruxelloise, se dit ben, on va en profiter pour faire passer 2-3 trucs de gauche. Ils ont fait sur le Mercosur, ils font passer, si j'ai bien compris, l'encadrement d'un truc sur l'encadrement des
loyers. Et ici, on parle même pas de contenu. Hein.
Non, mais sur le contenu, pourquoi? Parce que le PS, depuis l'été dernier, est coincé par le fait qu'il a un gouvernement qui penchera vers la droite parce que c'est un gouvernement avec les engagés et le MR, et un Parlement, et donc des électeurs et donc une population qui réclame plutôt des politiques de gauche. Et donc l'idée de se dire on va obtenir une conquête et cette conquête sera on est parvenu à faire en sorte que la NVA n'en soit pas, mais c'est aussi pour eux une façon de dire à l'électorat bruxellois et aux leurs en particulier, écoutez, voilà, on doit gouverner avec la droite, mais au moins on a obtenu ça.
Mais il n'y a pas de veto au niveau fédéral. On y reviendra sur cette question-là, Nicolas Dedecker, Catherine Ernest. Quelle valet noire, finalement? Le PS ou le MR? Les engagés, peut-être? Je ne sais pas. Elke Van Den Brandt?
Honnêtement, le PS, Ahmed Laouech, cet été déjà, avait cette idée de... Vous savez, on a le Parlement, et on y est fort dans le Parlement bruxellois. Et si on ne se met pas d'accord entre nous, nous, on avance avec le Parlement. Il le disait déjà cet été. Et quand la NVA est revenue dans la course, qui s'est levé pour dire « Ah mais alors c'est fini, on sortir ?» C'est Ahmed Laouech et le PS. Et donc, effectivement, c'est le Parti Socialiste qui a bloqué là-dessus. Mais, par ailleurs, il faut nuancer les choses, on a ce problème de la Flandre, où il est très difficile d'avoir cette majorité de minorité. Et symboliquement, là je pense que Nicolas Dedecker a tout à fait raison, le PS se dit, nous on ne peut pas se permettre de perdre des plumes qui nous reste à Bruxelles, en acceptant d'aller voler dans la même basse-cour que la NVA. Et donc là, bon, bah, ils sont... Et comme ils peuvent continuer, effectivement, avec le Parlement, où ils feront avancer les choses, puisqu'ils y sont forts, ils prennent cette solution-là. C'est bordélique, hein, c'est bordélique, mais c'est la situation bruxelloise depuis le début, l'est parce qu'il y a une distribution des cartes qui est, entre guillemets, je dirais pas anormale, mais qui est dissonante par rapport au reste du pays.
Quitte à se mettre à mal de futurs peut-être partenaires comme le mouvement réformateur et les engagés, notamment concernant ce texte sur l'encadrement des loyers. J'aimerais revenir sur ce qu'on disait avec Nicolas Decker. Finalement, c'est quoi la différence entre le fédéral, le PS, si l'Arizona échoue, pourrait éventuellement négocier avec la NVA, il l'a déjà fait par le passé, et au niveau de la région bruxelloise, il y a un veto de la part d'Ahmed Lawej. C'est quoi la différence? C'est le même parti, la NVA, au niveau Bruxelles et au niveau national?
Mais pas exactement, puisque au niveau national, la NVA est le premier parti de Belgique, et au niveau régional, elle est à peu près le dernier parti de Bruxelles. Et donc, sur le plan strictement quantitatif, il y a une différence, et il y a donc une disproportion. Quand le PS acceptait de négocier en une autre différence, c'est qu'il n'y a pas de palais. Et je reviens, quand le PS a accepté de négocier quelques jours, quelques semaines avec la NVA en 2020, c'est parce que le palais est... Tous les médias et tous les observateurs avaient dit, mais enfin, vous n'allez pas snober le plus grand parti du pays. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, vous voulez pas, Vlaanderen est évidemment hors du cordon sanitaire, mais la NVA est le plus grand parti du pays. Et donc de Flandre. Et vous le snobez. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc l'argument qui était le seul objectivement convaincant pour le PS que de dire, la NVA a une telle puissance électorale qu'il faut négocier avec elle, ben, il tombe complètement ici à Bruxelles, le Maxime.
Dorian Demieux, je sens que vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Decker sur...
Il y a une schizophrénie, je pense que vous avez raison de souligner quelque
d'accord.
chose qui ne va pas.
Parce que matériellement, c'est la même chose.
Voilà, je pense qu'il y a aussi au sein du Parti Socialiste, et ça va sortir de plus en plus. On a déjà entendu des voix discordantes par rapport à Ahmed Lawej, et on sent qu'il y en a d'autres qui vont commencer à s'exprimer.
Donc Ahmed Lawej est en train de perdre de sa super quelque part au lendemain
des élections. Parce qu'il est considéré comme quelqu'un de très fort, de très stratège. Il a une peur viscérale aussi. Il y a deux choses qui jouent. Une peur viscérale de la team Fadaïdar, où il se dit que la prochaine fois, ils vont prendre peut-être 5 sièges. Et du coup, il y a cette crainte-là qui fait qu'il tient bon. Et puis, je pense, pour en avoir un peu parlé avec lui,
son score,
c'est aussi un homme blessé, Ahmed Lawej. C'est quelqu'un qui, depuis une dizaine d'années, a été attaqué par l'NVA personnellement, stigmatisé par rapport à ses origines. Il a vécu assez mal. Et donc, parfois, on ne se rend pas toujours compte, quand on est dans l'analyse politique assez classique, que ce qui sous-tend une position de quelqu'un peut aussi jouer, enfin avoir été influencé par une expérience personnelle. Donc voilà, ça joue aussi.
Un rapide tour de table, à partir de quand on verra le bout du tunnel pour un gouvernement à Bruxelles dans l'Indemeus?
Je pense que Pâques peut être au plus tard, c'est Pâques. Sinon on va avoir un énorme problème. Mais c'est-à-dire qu'on doit attendre Arizona. Il n'y a rien qui bougera avant l'Arizona. Ça, c'est nous le disent tous. Donc après ça, il va falloir discuter. Mais ce qui est dramatique quand même, c'est qu'on ne parle pas de contenu. Ici, il n'y a personne qui se met autour de la table. Il n'y a toujours pas eu de réunion avec tous les présidents de parti ou les chefs de file autour de la table.
Et donc il y a quelque chose. Et tout pourri.
Oui, tout pourri.
À Bruxelles.
Absolument.
Tous les dossiers pourris. C'est clair qu'il y a des réformes à faire rapidement, Catherine Hernens, Nicolas.
Bien, sur l'absence de discussion autour du contenu, oui. Et c'est la seule note de Belgique qui n'a pas encore fouilleté, c'est la note Lester de l'été dernier. Ça veut dire quand même qu'il y a une forme de respect des formes entre les prétendus ou potputatifs négociateurs, donc PS, MR et engagés.
C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai.
Il y a une forme de confiance et c'est à ça qu'on le voit. Ça veut dire, moi j'espère avoir la note et tout le monde depuis 6 mois. Ça dépendra. On ne parle pas de fond, sauf au Parlement. Et donc, on critique beaucoup le fait qu'une région ne se gère pas depuis un Parlement, et je peux comprendre, mais moi j'ai une espèce d'affection d'observateur un peu dandy pour les régimes d'assemblée, parce qu'au moins ça permet de discuter des questions ponctuelles qui se posent. Le Mercosur, qui est pour, qui est contre, et on ne doit pas se dire, attendez, j'ai un pacte de gouvernement, faut pas que, j'ai pas le droit, on le reporte, etc. Et donc, il y a des éléments de fond qui s'expriment au Parlement, plus que dans le cas d'un accord de gouvernement.
Une donc le Parlement bruxellois est assez...
Ceux qui veulent du fond, suivons. Non, voilà. Il n'est pas actif, mais il va devoir se réactiver.
C'est mais ce que si je peux me permettre, c'était un point de vue très francophone, hein, parce que les Flamands voient ça comme un mépris total par rapport à leur position en Bruxelles.
Catherine Hernens, pour conclure, il est où le bout du tunnel?
Je ne sais pas, entre-temps, les personnes qui ont une petite vieille voiture qui ne peut plus rouler, mais on ne sait pas si elle ne pourra finalement plus rouler, n'ont pas leur réponse.
D'accord, vous parlez évidemment du report, la norme LES, la dernière.
Exactement.
Bien sûr. Merci en tout cas pour ce ce débat de très haut niveau. Juste après la pause, nous vous donnons tout le off que nous avons sur la super note économique de Bardoever. Celle-ci a fouetté. Se dirige-t-on vers un tax shift ou un tax cut? Nous en débattrons juste après la pause. À tout de suite.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Dance baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Sing baby.
Chez Percy Motors. Profitez de conditions exceptionnelles sur les marques Volkswagen, Audi, Seat, Cupra et Skoda. Et ce n'est pas tout, tentez de gagner un vélo électrique et d'autres lots exclusifs. Rendez-vous vite chez Percy Motors à Wavre, Genval, Perouet et Gembloux. Percy Motors, le service d'abord. Voir conditions en concession.
La Libre s'adapte. La Libre vous accompagne. La Libre vous divertit. Découvrez dès maintenant la nouvelle app mobile de La Libre. Facilité d'utilisation, personnalisation, séries rédactionnelles exclusives et bien sûr, toute l'actu en temps réel. Rendez-vous dès maintenant sur l'App Store et Google Play.
Bonsoir le club, Maxime Binet.
Très heureux de vous retrouver sur AN Radio et sur AN24. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Bonsoir le Club, l'émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses. Nous sommes toujours avec nos trois chroniqueurs du jour, à savoir Catherine Hernens, Nicolas Dedecker et Dorian Demeus. La Belgique doit-elle aller vers un tax shift ou un tax cut? Nos confrères flamands ont réussi à mettre la main sur la note, la super note économique de Bardoever, la Libre Belgique aussi, notamment concernant la taxation sur les plus-values. Nous allons vous donner tout le que nous avons, c'est le sujet de notre débat d'émission. Alors, justement, Nicolas Dedecker, la note a fuité et ses mauvais signes en général. Va-t-on vers un tax shift ou un tax cut avec l'Arizona?
D'abord, je tiens à protester officiellement contre votre choix qui est celui de discuter de points de détail.
Pourquoi?
En ignorant la révélation qu'on aura dans le vif de demain. Ah. Qui a changé la face de la Belgique et
d'accord.
qui concerne l'Arizona
vous
sur la suppression,
cas,
la suppression de l'effet dévolutif de la casse de tête. Les amis, voilà. Donc je le dis à tous nos téléspectateurs, ruez-vous sur le vif. Déjà ce soir c'est en ligne. L'Arizona a prévu de supprimer l'effet dévolutif de la casse de tête. Si vous pouvez voir la caméra et faire un appel solennel, je pense que je le ferai.
D'accord.
Plus fort.
Mais alors, pour la fiscalité,
sur ces questions de détails sur lesquelles vous voulez absolument que nous parlions, que sont la fiscalité, l'économie, le marché du travail et tout ça, eh bien. Il y a quand même un élément, moi, qui me saisit, mais qui fait aussi la connexion avec la première partie de notre discussion, c'est que ça tourne quand même beaucoup en rond. Hein? On est quand même en train de discuter des mêmes choses avec les mêmes arguments depuis 7 mois, ça on l'a répété, mais quand quelque chose change... Ce ne sont pas des bouleversements absolus. Quand la taxation pressentie sur les plus-values passe de 10 à 5%, ça ne va pas renverser le régime économique de la Belgique et même pas renverser son régime fiscal. Quand on discute du passage de la taxe sur les comptes titres de 0,15 à 0,25, c'est ça
juste.
On n'est pas dans des trucs sur lesquels on devrait mériter d'entrer en guerre.
Donc c'est de l'enfumage.
Mais non, c'est pas de l'enfumage, c'est du positionnement politique. Hein? Si ils en sont arrivés sur ce compromis-là, si c'est le compromis final par rapport à ce que les uns et les autres avaient trouvé d'imbuvable, d'inadmissible, de non négociable il y a 3 mois, ben alors on pourra dire oui, alors oui, on pourra dire c'est de l'enfumage. Ils nous ont fait bavarder pendant des mois, alors qu'au fond, un compromis était très facilement accessible.
D'accord. Mais concernant ce choix entre un tax cut, c'est-à-dire une diminution des taxes en Belgique, je rappelle que la pression fiscale est d'environ 53%. Seule la France fait mieux, hein, 57%.
Pire,
c'est
pire.
Peut-être le mauvais exemple, justement, à donner hein, par rapport à nos voisins français. Mais certains voudraient un tax shift, faire un peu ce qu'avait fait la suédoise, il y a une dizaine d'années. Catherine Hernens, est-ce qu'on peut diminuer le nombre de taxes en Belgique ? Alors qu'on est déjà très fortement taxé. Hein.
Si ce gouvernement dit de droite, certes, où il y a Voreut, n'y arrive pas, quel gouvernement y arrivera un jour ? Ça, c'est quand même la question. Et en même temps, c'est vrai, un CDNV, par exemple, se veut plus équilibré, plus modéré, pour que cette charge soit mieux répartie et plus équilibrée, ce qui est plus, entre guillemets, belge. Voilà. Donc, on va voir comment il tranche le problème avec... moi, j'ai trouvé ça quand même surprenant, et j'aimerais bien le rappeler... Un Théo Franken qui s'est quand même permis une sortie absolument surprenante, je suppose un peu par phénomène d'hallucination ou de réverbération par rapport à Trump, en disant, moi à la table des négociations de l'Arizona, plus le temps avance et plus j'ai des orgasmes idéologiques parce que on peut dire des choses vraiment très très à droite et être même soutenu quand on le fait.
Et donc, oui, sur certains dossiers, c'est clair. Oui, oui, oui.
Sur certains dossiers. Mais donc, il y a quand même une velléité d'être plus à droite que la suédoise. Donc on va voir s'ils y arrivent ou pas.
L'Arizona serait plus à droite que la suédoise, Dorian Demius, si l'Arizona voit le jour, notamment sur l'aspect économique ?
Sur l'aspect migratoire, je pense, ça me paraît...
C'est sur l'aspect migratoire.
Ça me paraît. Il faut pas oublier que la Suédoise est tombée sur la question migratoire.
Du pacte de Marrakech,
Là, je pense qu'en tout cas, ça joue. Maintenant, pour répondre un peu à votre question, tax cut, couper les impôts aujourd'hui, c'est pas possible, on peut pas se le permettre. Hein,
parce qu'il y a un ajustement budgétaire,
voilà. Donc, ce qu'on va avoir, c'est normalement, hein, si ce qui est autour de la table, parce que vous savez bien, tant qu'il y a d'accord sur tout, il y a d'accord sur rien, on parle d'une diminution des charges sur le travail de 4,6 milliards. Donc, c'est évidemment pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et une augmentation de l'imposition sur les épaules les plus larges de 2,6 milliards. Ce qui est vraiment, si vous voulez, la fourchette basse, parce que les Voreut voulaient évidemment beaucoup plus via les différentes mesures qui ont déjà été prises. Prenons juste la taxe sur les comptes titres qui passerait donc de 0,15 à 0,25. Ça représente 190 millions d'euros supplémentaires par an. Donc c'est pas énorme par rapport aux 5
PIB
milliards.
De 500 milliards aussi de la Belgique et des 5 milliards recherchés. Il y a toujours cette réforme fiscale voulue par le CDNV d'environ 5 milliards ou pas ?
Le CDNV risque, si ce qui est sur la table arrive, le CDNV aura été le grand perdant de cet accord, parce que le CDNV voulait absolument mettre sa propre réforme fiscale sur la table. Or là, on sent bien qu'elle n'y sera pas. Et à un moment donné, il y a eu dans les discussions un peu chaudes Georges Boucher qui a dit « Mais si c'est comme ça, alors autant pas en faire du tout. » Donc l'idée, c'était de ne pas avoir des réformes du tout et continuer avec le reste, ce qui aurait été un échec encore plus considérable pour le CDNV, en fait aussi pour tous les partis autour de la table. Mais donc, ça, c'est c'est quand même quelque chose qui était sur la table. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on va y arriver, parce qu'ils sont prêts à revoir leurs ambitions pour y parvenir.
Et je pense que Georges Boucher a eu des mots très durs aussi pour l'ancien ministre vice-premier CDNV sur la fiscalité des finances, donc Vincent Van Petegem, le menaçant, disant « Moi, président de parti, jamais plus tu ne seras ministre ». Vous confirmez ça, cette anecdote?
Tout à fait, mais ça reste anecdotique, ça reste tout à fait le personnage de Georges Boucher, hein, qui peut être très brutal dans ses relations interpersonnelles et qui, à un moment donné, est très fâché et sort ce genre de choses. Ce que les Flamands sont toujours surpris. Hein. Les Flamands ont toujours des grands yeux en disant « Mais c'est quoi ce personnage qu'on a en face de nous ?» Et si vous posez la question à Georges Boucher, vous direz « Mais moi, je suis là pour défendre les causes. J'ai gagné les élections. » Quelque chose qu'il répète systématiquement, même autour de la table. Et donc, il veut pouvoir dire « On a gagné et on a des avancées. »
Au moins, quand il le dit, lui, c'est vrai. Quand c'est marronneur, c'est déjà plus douteux. Mais juste un petit point étymologie sur l'expression « tax shift » qui doit nous rappeler aussi que les gens, pour l'instant, qui négocient, ils négocient sur des projections. Hein. Le tax shift, plutôt que tax cut, pour l'instant, on dit ouais. Qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on équilibre ou pas. Le tax shift précédent, celui de sous le gouvernement de Charles Michel, on l'appelait tax shift. En réalité, ça a été un tax cut, puisqu'il a structurellement définancé la sécurité sociale. Ils avaient pensé que des effets retours miraculeux apparaîtraient et permettraient donc ce glissement qui aurait des rentrées permises par
les baisses d'impôts. Et ici, il y a pas mal d'effets retours évalués.
C'est encore le même problème. Donc ici, on parle depuis 7 mois de cette question-là alternative entre tax shift et tax cut. Soyons déjà certains que pour les 4 prochaines années, nous réfléchirons complètement en d'autres termes. Parce que les calculs ne seront pas bons. C'est le propre des calculs de négociation, c'est que on n'est jamais bon. Ça ne veut pas dire que les gens sont nuls, ils sont infiniment meilleurs que moi, c'est pas la question, mais l'observation des faits démontre que quand on fait des projections, en général, on se trompe. Et donc, je suis prêt à ce qu'on enregistre ce petit morceau d'émission et qu'on en reparle dans un an, dans deux ans, dans trois ans, le jour de la confection.
Eh bien, promis, ça sera fait. Et si jamais vous plantez, ça sera ressorti, Nicolas de Decker.
Ne faites pas ça, Maxime. N'exagérez pas.
Catherine Ernest, par rapport à la déclaration de Landemius qui dit, pour l'instant, le CDNV est le grand perdant de ces négociations. Ça vous étonne ou pas?
Ah mais non, et je pense qu'effectivement il y a une inimité par rapport à Vincent Van Petegem qui a tourné un petit peu, ou en tout cas Boucher a eu l'impression d'être tourné un peu en bourrique au niveau fiscal dans le gouvernement d'Alexander De Croo, puisqu'on n'a jamais abouti à rien du tout, parce qu'il y avait une tempérance ou une, peut-être une méthode de travail un peu sinueuse et qui apparemment se répercute ici autour de la table de négociation.
Ouais, et je me demande aussi si la réforme fiscale qui avait été imaginée sous la Vivaldi et qui a été ressortie par Van Petegem durant ces négociations, si cette réforme fiscale ne voit pas le jour, dans l'an 2008, j'ai envie de vous dire, quand verra-t-elle le jour? Ça fait 10, 15, 20 ans même qu'on parle de cette fameuse réforme fiscale, et là, il y a un risque qu'elle ne voit toujours pas le jour avec ce nouveau gouvernement.
Oui, absolument. Et je m'étonne d'ailleurs d'entendre les syndicats dire oui, les 500 euros
d'écart.
En fait, déjà, dans beaucoup de cas, ça existe déjà. Mais ces 500 euros, ça tient évidemment compte du fait que ceux qui sont allocataires sociaux ne verront pas leurs propres allocations augmenter, être indexées. Et donc, vous allez avoir des gens qui ne vont pas bouger, les autres monter un petit peu. Et par l'effet naturel de l'indexation des salaires, vous allez avoir ces 500 euros. En fait, l'effort, il est assez minime par rapport.
Sauf pour les plus pauvres.
Non, je parle de l'effort comme changement. Ici, évidemment.
Oui, bien sûr, ça veut dire que le ressort politique et le point de départ intellectuel de ça, c'est de considérer que les pauvres sont trop riches et donc il faut qu'ils arrêtent de
considérer que ceux qui sont allocataires doivent travailler.
Ils sont trop riches, ça ne va pas, donc il faut geler leurs allocations pour qu'ils restent
petites pensions. Catherine Ernest.
Oui, et effectivement, peut-être souligner que c'est une mesure idéologiquement de droite que de geler les allocations, parce que ça ne rapporte pas grand-chose.
Mais ça ne rapporte
pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand on est allocataire, on consomme tout ce qu'on reçoit, et donc on réinjecte dans l'économie. Et donc, le fait de ne pas indexer, bon, c'est pas un gros gain pour les finances, in fine.
Eh bien, voilà. Merci pour ce débat autour de la politique pour ce mercredi. Merci Catherine Ernens. Merci aussi Nicolas Delecker.
Merci à vous, Maxime.
Et merci Dorian Demilis. On va tout de suite prendre la direction du Prime, retrouver Nicolas Pipin. Bonsoir Nico, qu'est-ce que vous nous avez prévu ce soir dans le Prime ?
Salut Max, bonsoir à toutes et à tous. Direction d'abord les États-Unis avec cette question qui agite le débat ces derniers jours. Donald Trump est-il devenu un président fasciste? On en parle avec nos invités dans un instant. On reçoit aussi ce soir Géraldine Schwartz pour son nouveau livre qui nous plonge aux sources de l'Europe à travers une grande fresque historique. Et avec justement le retour de Donald Trump, elle s'inquiète de l'impréparation de l'Europe face aux défis américains. Et puis vers 21h30, Fabrice Duhel, ce réalisateur de Mal d'Aurore, sera avec nous pour nous parler de son thriller librement inspiré de l'affaire du trou. Bonsoir le Prime, ça commence dans un instant, à tout de suite.
Bonsoir le Club, en collaboration avec LN24.
No more of your darkness on my picture, seem to fade to black and white. I'm growing tired, time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself. I took a chance
c'était d'hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens de nous et comme on était beau, ton prénom dans mes prières et ton souffle sur ma peau. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où, t'étais où, toutes ces années passées sans toi. Je t'ai cherché, tu n'étais plus là. Ta vie, pris le risque de nous perdre. Dis-le-moi si je peux tout dire. Dis-le-moi si je t'emmerde. C'est le temps qui guérit quand c'est l'amour qui blesse. Il en faudrait de la magie pour que ton visage disparaisse. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où, t'étais où, toutes ces années passées sans toi. Je t'ai cherché, tu n'étais plus là. J'ai pas pu t'offrir, qui manque vraiment. T'étais où, t'étais où, toutes ces années, je t'ai cherché.
Radio.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above us sizzling like a spare. Honey, I'm flying, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm flying.
summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, 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 oh.
Au grand départ, fermez la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix, l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je ne dirai pas. Et quand j'y pense, danse ma poitrine. Pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Je souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus bas. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie. Mais ne vous méprenez pas, mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré le ténèbres, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête,